Père Jean-Jacques Barrère, voilà, nous y sommes. C'est la journée Terre d'Espérance dans le doyenné de Lannemezan, à La Barthe-de-Neste. Expliquez-nous un petit peu qui est présent aujourd'hui, quelles sont les initiatives qui sont présentées.
Ben, qui est présent aujourd'hui, bonne centaine de personnes. Dans le contexte où nous sommes, puis d'autres viendront sans doute dans l'après-midi. Moi, je compte que 150 personnes passeront. Bon, c'est bien, je dis c'est bien, parce que c'est des gens motivés et c'est des gens qui pensent aussi que l'Église, c'est son rôle d'accompagner les gens qui transforment le pays et puis de mettre en œuvre cette encyclique du Saint-Père, du pape François, Laudato aussi. Louons le Seigneur au milieu de cette terre et faisons en sorte qu'elle ne soit pas, disons, trop polluée et dégradée. Ce qui risque d'arriver malgré tout, mais enfin, nous résistons et c'est notre rôle aussi. Et nous devons transmettre aussi aux générations qui viennent. Voilà ce qui me paraît important, dont nous le faisons évidemment dans la pastorale habituelle, mais il est important, à mon sens, que des gens viennent partager. Voilà.
Alors, nous résistons, dites-vous, et on voit bien que pour résister, il y a de multiples manières. On le voit avec tous les stands qui sont présentés aujourd'hui.
Alors, il y a les initiatives professionnelles, comme viennent de le dire maintenant les agriculteurs, disons qu'ils sont prisonniers, dans la plupart des cas, je pense aux éleveurs laitiers, et qui ont eu cette initiative courageuse de traiter avec les firmes pour que une partie de leur production soit en contact direct avec les consommateurs et donc soit valorisée. Je trouve ça très, très, très chouette. Parce que, d'une part, on a besoin tous ensemble, malgré nos difficultés, nos points de vue, de mettre en commun nos initiatives. C'est le sens de cette journée. Dans un premier temps, toute la matinée, les gens de divers coins de la zone de l'ensemble du doyenné, pardon, de Lannemezan, ont mis ensemble des initiatives les plus diverses, du côté des enfants, du côté des jeunes avec le MRJC, du côté des enfants avec la CE, du côté des jeunes adultes qui se sont formés à travers les années de formation rurale que nous avons évoquées. C'est des gens tout à fait nouveaux. Et puis, les mouvements comme le CMR, chrétiens en monde rural, qui sont bien présents ici. Et donc, c'est ensemble que nous avons sollicité des paroissiens, des gens du pays en responsabilité. Et ils sont là, et les panneaux témoignent du travail qui a été fait pour présenter tout ça. Alors, c'est évidemment très varié. Il y a des commerçants, il y a des gens qui sont dans les fruits et légumes, il y a des gens qui sont dans la viande, d'autres projets de la méthanisation sur tri. Et puis alors, tout ce que font les équipes CMR pour s'attaquer vraiment au système tel qu'il est, le mettre en question et se remettre à l'école de Laudato aussi, l'encyclique du pape François.
Alors, quand on évoque le territoire, on peut trouver plein de raisons de se décourager. Mais il y a aussi beaucoup de raisons d'espérer. Et on le voit à travers la mobilisation de toutes ces personnes qui présentent aujourd'hui leurs initiatives. Quelle est, à vous, Père Jean-Jacques Barrère, votre espérance ?
Eh bien, écoutez, je vois, par exemple, que les prêtres du doyenné ont suivi, donc ont mobilisé des paroissiens. Je vois l'initiative des religieuses de Canthouse, des Sœurs Saint-Joseph, qui, communauté vieillissante, mais a mis tous ses biens a ouvert, disons, à des associations diverses pour l'utilisation de leurs biens, pour le jardinage, pour le, dans leur grand jardin, puis pour leurs locaux. Donc, voilà, tout le monde s'y est mis. Et puis, des initiatives religieuses, comme nous le faisons à Galan, c'est-à-dire le tour des paroisses, le patrimoine religieux, ne pas le perdre. Et c'est très riche, on s'aperçoit. On s'aperçoit, moi qui l'avais initié il y a 5 ans, où venaient surtout des touristes pour visiter les églises, bah, ça a duré 1 an, mais dès la 2e année, les gens du pays ont voulu se remémorer ce qui s'est fait dans leur paroisse, et les maires des villages ont collaboré tout à fait, présentant en même temps que le patrimoine religieux, le patrimoine de leur territoire. J'ai trouvé ça très bien. Et donc ça s'est fait pour ce doyenné, dans les paroisses qui sont proches, les petits villages, Galan, Le Magnouac et Trie-sur-Baïse. Donc, il y a une action commune, les prêtres et les paroissiens, et puis des élus également. Voilà, et puis les choses assez originales. Nous avons fait, par exemple, il ne s'agit pas uniquement de l'église, nous avons fait un village de Recure qui a planté des croix dans le village et aussi dans les champs, comment tout ça collabore. Et ici, aujourd'hui, nous avons à Trie-sur-Baïse, dans les environs, exactement à Mazerolles, s'est lancée une guinguette au milieu des champs pour lancer une espérance, des rassemblements sur des produits bio, si c'est possible. Voilà, donc, pour moi, tout ça, je ne peux pas tout nommer, évidemment, mais on a réuni, par exemple, sur 2 ans, avec l'année de formation rurale, des gens qui ont fait des gens de 40 ans, vous voyez, des cadres, qui ont, disons, se sont exprimés sur leur foi, sur leur action, sur leur histoire, à travers que devient notre identité. Et les gens bougent, et il y a une ouverture, et puis ils ont regardé le visage de Jésus, ils ont regardé aussi la sociabilité, comment elle se développe. Donc tout ça avec des intervenants de valeur et des partages importants, bah, ça a ouvert une espérance extraordinaire, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Père Jean-Jacques Barrère.
Merci à vous, Anne-Rose.
Jean-Charles, du village d'Aromans, Saint-Aromans, pardon. Vous venez ici à Terre d'Espérance. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cet événement ?
C'est la rencontre avec d'autres personnes et puis connaître un peu toutes ces associations qui œuvrent pour le bien-être de la population locale. N'étant pas de la région, je me suis installé ici en 2005 et je ne connaissais pas trop les Pyrénées, malgré que je sois marié avec une Pyrénéenne. Et j'ai toujours aimé venir à la Barthe quand il y avait des activités, à une époque, ils faisaient au niveau de la Barthe ce qu'ils appelaient le café littéraire. Il y avait de temps en temps des réunions dans un café et on recevait un auteur de la région qui venait présenter son livre et j'ai toujours adhéré à ce système. Ça me permettait de rencontrer les gens du pays et de connaître les Pyrénées.
Donc on en...
N'étant pas pyrénéen, j'ai appris à... Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est histoire des Pyrénées.
Toutes ces initiatives présentées aujourd'hui, au fond, qu'est-ce qu'elles vous inspirent ?
Ben c'est que ça permet d'aider la population locale et de maintenir un lien entre les différentes couches, les personnes âgées et les plus jeunes.
Alors Pascal Labatte, aujourd'hui à cet événement Terre d'Espérance, vous présentez les marchés itinérants des baronnies. Qu'est-ce que c'est ?
Les marchés itinérants, c'est des agriculteurs qui se sont regroupés, enfin des agriculteurs, des artisans, des producteurs qui se sont regroupés ils sont au nombre de 21-23 peut-être maintenant, pour faire des marchés dans les petits villages des Baronnies. Alors un marché par mois, du mois d'avril au mois d'octobre. Et voilà, c'est pour faire revivre les villages. C'est aussi pour mettre un peu d'animation dans ces villages où il y a eu pendant 2 ans de suite pas de fête de village. Et donc c'est pour faire un peu une animation aussi au village. Voilà.
Donc cette initiative, elle est un des fruits positifs du Covid, c'est ça ?
Elle est un des fruits positifs du Covid, pas seulement parce qu'il y avait déjà un souhait de se rassembler pour faire un événement, pour faire ce genre de marché sur un lieu précis. Et ça a d'ailleurs été fait en 2019, une fois. Comme ça a bien marché, et ben, il a été décidé de le reconduire l'année suivante, donc en 2020, et dans 7 villages différents. Voilà.
Donc tous les producteurs, les agriculteurs, les artisans qui font partie de cette association et qui font partie donc de ce marché itinérant sont des villages alentours, des villages des Baronnies.
Absolument, tout à fait, oui c'est ça.
Donc derrière il y a aussi un souci de promouvoir les produits locaux.
Absolument, oui c'est ça l'idée, hein, vraiment, c'est d'être au plus près du consommateur, de promouvoir aussi l'agriculture locale et l'artisanat local et... Plusieurs de ces artisans ou producteurs donc sont soit natifs de la région, soit viennent d'arriver dans la région avec le souhait de s'installer et d'y vivre en fait dans cette région, dans ce territoire.
Voilà. Depuis que ça existe, donc ce marché itinérant, qu'est-ce que vous avez constaté ? Quel est le retour des personnes qui habitent dans les villages et le retour des producteurs ? Qu'est-ce que ça a créé, suscité ?
Ça crée du lien. Indiscutablement, ça crée de l'animation également et aussi pour les gens qui exposent une satisfaction vraiment d'être au contact direct avec leurs consommateurs et pour les gens qui consomment d'être au contact direct avec le produit qu'ils achètent et avoir des explications, avoir vraiment une relation humaine, enfin voilà, des liens indéniables, voilà.
Pourquoi c'était important pour vous d'être présente aujourd'hui à cet événement Terre d'Espérance ? Alors, on entend bien comment votre initiative est signe d'espérance. Pour vous, qu'est-ce que ça représente ?
Ça représente effectivement de l'espérance. Hein. Le milieu rural a été un moment fui. Au profit des grandes villes et des agglomérations de grandes métropoles, mais on constate peut-être pas seulement à la faveur du confinement, mais vraiment avec ce confinement effectivement un retour vers une dimension plus petite, enfin voilà une économie plus petite, plus proche, personnel.
Avant de faire cette interview, on m'a glissé un petit mot dans l'oreille en me disant « Mais Pascale, elle est incroyable parce qu'elle quitte son métier d'infirmière pour aider son mari et son fils dans ce métier d'agriculture et de production. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en fait, vous quittez un milieu professionnel pour justement mettre les mains à la pâte ?
Ah oui, c'est exactement ça. Vraiment mettre les mains à la pâte. J'ai exercé pendant 32 ans la profession d'infirmière et je sentais une lassitude physique et morale. Je ne dis pas que je n'aime plus mon métier, mais ça devenait compliqué pour moi de continuer à l'exercer. C'était avant le Covid, hein, ça, hein. C'était une usure qui s'est faite quand même progressivement. Mon fils est installé il y a maintenant 4 ans. Avec mon mari qui était déjà dans l'agriculture et il a commencé à transformer ses produits, à faire du porc, de la charcuterie donc. Et voilà, j'ai eu l'idée de faire, de peut-être venir, si je dois l'aider, c'est maintenant, je me suis dit. Ça correspond à un moment donné où je me sens un peu lasse de mon métier. Donc voilà, j'ai fait une formation de charcutier traiteur, un CAP à 9 ans. Ça m'a donné un souffle nouveau. Et une dynamique, et puis voilà, avec dans l'idée de seconder mon fils pour l'instant. Et puis peut-être si il s'en sort sans moi, de lui laisser la place aussi, mais voilà.
C'est... Donc avec un projet donc, de transformation des produits que vous allez produire vous-même dans l'exploitation, Voilà, et avec ce fonctionnement en vente directe le plus possible.
Vente directe. Mon mari fait ça déjà de la vente directe depuis longtemps, depuis une dizaine d'années, et même davantage. Et mon fils a fait un élevage, enfin des cochons maintenant, qu'on a rajouté dans l'exploitation, et il transforme. Pour l'instant, il fait faire chez un charcutier, qui nous donne satisfaction, mais voilà, c'est l'idée, c'est de le faire aussi nous-mêmes, d'aller de la production jusqu'à la transformation et la commercialisation.
Voilà, mais donc on entend que c'est possible. C'est possible de bien produire et de bien consommer.
Je pense, hein. J'y crois en tout cas.
Merci beaucoup, Pascal.
Merci à vous. Merci, Birmermo.
Il y en a des stands à cet événement Terre d'Espérance. Alors je me promène de stand en stand et là je tombe sur un stand qui parle de la chapelle Notre-Dame de Nouillan. Alors monsieur, vous en êtes le président de cette association. Est-ce qu'on peut avoir votre nom ?
Oui, c'est monsieur Cambistos Raymond.
Raymond et madame ?
Évelyne Cassagne.
Alors tous les deux, vous êtes investis dans cette association. Ben, qu'est-ce que c'est ? Où est cette chapelle de Nouillan exactement ?
Elle se trouve dans la commune de Montoussé,
à 2 km de la Barthe.
À l'entrée de la commune de Montoussé. Il y a un sanctuaire où il y a eu des apparitions, 10 ans avant Lourdes, en 1848.
Alors ça, c'est la nouvelle.
Voilà.
Nos auditeurs ne sont peut-être même pas au courant.
Mais il y en a qui le découvrent, même à Lourdes, grâce à des... Voilà,
ce livre que vous me présentez, 10 ans avant Lourdes, Apparition et miracle à Montoussé-Nouillan. Vous pouvez nous raconter l'histoire brièvement ?
Brièvement, oui.
Brièvement, enfin quand vous voulez, vous savez, sur Radio Présence, on prend le temps.
Voilà. Il y a eu une apparition d'une vierge à des enfants, mais elle n'a pas laissé de message. Et après, la vierge est apparue pendant un an et un jour à d'autres personnes, mais même quand il y avait un groupe, il n'y avait qu'une personne qui la voyait. Mais elle n'a jamais laissé de message. Et il y a de la neige qui est tombée au mois de l'été, et à l'emplacement de l'apparition, il y a eu un endroit où la neige... il n'y a pas eu de neige. Alors les gens, ils ont estimé qu'il fallait construire un oratoire à cet endroit-là et à la dimension que la neige avait tracée, quoi.
Et donc cet oratoire existe encore aujourd'hui ?
Existe, voilà. C'est l'oratoire où les gens vont faire brûler des bougies, des cierges et prier à la Vierge parce qu'il est accessible à tout le monde.
Donc encore aujourd'hui, il y a des habitants du village et même des villages alentours qui viennent prier, se recueillir.
De loin, des personnes même de loin.
Alors quelle est la mobilisation des habitants du village autour de ce sanctuaire ?
C'est pas que les villages, on a des adhérents qui vont de très loin jusqu'à Paris. Alors, vous voyez...
Et donc, qui font des dons pour que vous ayez les moyens d'entretenir ?
Ils font des dons qui nous aident à entretenir. Et on leur envoie à chaque fois le compte rendu de l'Assemblée Générale, en même temps que le reçu pour la déduction fiscale des dons.
Alors, si je comprends bien, ce petit sanctuaire de Nouillan, c'est un lieu de prière qui est ouvert. Tout le monde peut s'y rendre tout le temps, en fait.
Tout à fait, oui. C'est ouvert à tout le monde.
Pourquoi l'un et l'autre vous êtes engagés ? Qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire ?
Moi, d'abord, c'est ma mère qui avait commencé avant qu'il y ait l'association. C'est ma mère qui avait entretenu l'oratoire, qui avait acheté des cierges et qui faisait brûler les cierges. Et avec les dons, elle avait arrangé la bordure, acheté des tables, des bancs. Voilà. Et à côté, il y a une chapelle qui était en ruine et que depuis que l'association a été créée, l'association a restauré cette chapelle que pratiquement seule, parce que les monuments historiques n'ont pas voulu l'aider, soit disant qu'elle était irréparable.
Donc ce sont des personnes qui, sur leur temps libre, se mobilisent pour faire les travaux ?
Non, les travaux ils ont été faits par des professionnels et les gens ils ont fait des dons. On avait fait un appel à des dons et on a eu des dons assez importants qui nous ont permis de faire ces travaux. Et puis l'association, bon, on a voulu sauver un patrimoine communal.
Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'association ?
On est une cinquantaine.
Et vous, vous êtes aussi très touché par cette histoire et engagé ?
Bien sûr, oui. Oui, parce que c'était une chapelle quand même qui était en ruine, que nous avons restaurée, qui est magnifique maintenant.
Voilà, alors comment on peut... Comment
les... C'est une chapelle dédiée à la Vierge.
C'est une chapelle dédiée à la Vierge. Et on sait qu'en Bigorre, les Bigourdans sont... aiment beaucoup la Vierge Marie et beaucoup de lieux lui sont dédiés. Comment les personnes qui nous écoutent via la radio, via nos médias, peuvent vous aider peut-être, ou s'ils veulent en savoir plus, comment et on fait?
S'ils désirent faire des dons, ils peuvent le faire au nom, envoyer des dons au nom de la chapelle de Nouillan, 65-250 de Montoussé. Après, s'ils veulent adhérer, ils peuvent faire une demande d'adhésion. C'est 12 euros l'adhésion, je... voilà, 12 euros. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne journée ici à l'événement Terre d'Espérance, en espérant que vous pourrez faire connaître à un plus grand nombre encore cette chapelle de Nouillan.
Voilà, bonjour. Si l'espérance t'a fait marcher. Moi, je connais même.
Bon, alors voilà, on a l'ensemble paroissial Arro, Sarran-Colin, toute cette belle vallée qui est là. À l'événement Terre d'Espérance. Alors, Père Hilary, vous n'êtes pas venu seul. Présentez-nous la personne qui est avec vous.
Voilà, je suis accompagné des membres de mon équipe d'animation pastorale que vous avez déjà entendu parler de 007. S'il s'agit d'accueillir, accepter et aussi analyser, agir. Voilà, pourquoi? C'est parce que, dans notre avis, il faut toujours aller vers l'espérance. Cette espérance ne peut pas être donnée comme ça, tout simplement. Donc, on a besoin que voilà, tous les éléments soient respectés. Donc, à côté de moi, j'ai Sophie et Saint-Martin. Voilà, donc, je la connais depuis longtemps, qui était aussi un soutien pour moi, puisque nous marchons également aussi sur l'itinéraire marial. C'est dans cette perspective, voilà, elle a eu une tâche importante, de pouvoir aussi produire, voilà, sculpter même en terre la statue de Notre-Dame d'Artigalong. Voilà.
Vous êtes une artiste au service de la marche mariale de votre ensemble paroissial, on peut dire ça comme ça?
Oui, on peut dire ça comme ça. Donc Père Hilary, oui, il y a à peu près 10 ans que je le connais. Et donc il m'a demandé de lui reproduire la Vierge d'Artigalong. Sachant que je la reproduis, mais avec... je ne suis pas faussaire, en fait. Alors, bon, elle n'a pas les traits exacts de celle du site, mais elle en a l'esprit, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut préciser, pour les auditeurs qui ne sont pas là et qui ne voient pas, en quelle matière
Alors, elle est en grès. Après, je patine à la cire pour imiter le bois. Et ça donne... En fait, l'aspect, c'est vrai que c'est les personnes s'interrogent, pensent que c'est du bois, mais c'est simplement de la terre patinée à la cire.
Ça, c'est les secrets de l'artiste que nous avons. Qu'est-ce qui vous touche dans cette reproduction de la Vierge d'Artigalong? En quoi cette Vierge d'Artigalong vous touche? Pourquoi vous avez eu envie de vous y investir de cette manière, de mettre votre art à son service?
Quelque part, elle est exceptionnelle. En fait, elle nous guide. Enfin, moi, c'est ce que pour la reproduire. Au début, c'était, je pensais ne pas y arriver. Hein, je le dis franchement, puisque bon, elle est quand même. Et en fait, on est guidé. Elle nous guide.
Ces vierges-là que vous sculptez, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut vous en acheter ou...
Bien sûr, j'expose assez souvent, donc dans la vallée. Ensuite, je n'ai pas de site internet. Je montre mon travail comme à l'ancienne, le bouche à oreille.
Et vous avez un super chargé de com.
Voilà. En fait, Père Hilary était un très bon...
Père Hilary, vous avez quand même un talent fou pour dénicher, justement, les talents, les compétences des personnes qui vivent dans votre vallée, dans votre ensemble paroissial. Ça, c'est un peu votre leitmotiv. Hein. Vous soulevez les talents, vous allez les dénicher et puis vous les mettez au service de la communauté paroissiale.
Voilà, tout à fait. D'abord, il s'agit d'un souci de vivre la paternité spirituelle, aller chercher tous les enfants qui sont cachés, qui sont enfouis avec leurs talents. C'est vraiment mon souci primordial. Et deuxièmement, il s'agit aussi de pouvoir communiquer, comme tu disais tout à l'heure, parce que pour moi, ce que l'on fait crier plus fort que ce que l'on dit. C'est pas d'abord le discours, c'est les actions. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir aussi qu'il y a beaucoup d'actions dans la paroisse, non seulement pour faire vivre les pratiquants, les croyants. Et parfois, ces gens-là qui n'ont pas l'habitude de voir les choses, qui se sentent frustrés, c'est la raison pour laquelle on est en décalage, parce que non seulement ils ne savent pas accueillir, accepter ou apprécier, mais aussi qui deviennent aussi parfois des obstacles quand on apprécie, quand on lance notre filet au large. Et tandis que grâce à cette communication, eh bien, on est capable de toucher beaucoup de monde parce qu'il y en a qui guettent, en quelque sorte, qui regardent, qui observent ce qu'on fait au sein de l'Église, parce que nous sommes vraiment les témoins véridiques, valables, aussi tangibles par rapport aux attentes des gens.
Alors moi, je suis Nicole Clarins et j'habite à La Barthe.
Moi, Evelyne, j'habite à La Grange.
Voilà, alors toutes les...
Evelyne Fernandez.
Evelyne Fernandez. Et vous faites partie de l'association... Amour de Chapelle. Alors je précise, Amour, le A est détaché de Mour. Ça, vous allez nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que cette association ?
Alors cette association, elle a débuté en 2012 avec notre ancien prêtre Pierre Condou. Voilà, nous avons créé cette association et à l'heure actuelle, nous sommes 80 adhérents. Et voilà, c'est une petite chapelle du 12e et 13e siècle. Nous avons envie de la faire revivre et surtout de protéger notre patrimoine. Voilà. Alors,
elle se situe où exactement ?
Elle se situe dans un quartier du Bas-Mour, à travers les champs et à La Barthe. Voilà. Donc, depuis 2012, nous avons fait beaucoup de travaux avec du bénévolat, bien sûr. Alors, pour continuer ces travaux, justement, nous avons besoin de fonds et nous organisons souvent un concert au mois de juillet, la vente de gâteaux. Nous avons beaucoup de pâtissiers dans notre adhésion. Ensuite, une marche au printemps et le marché de Noël que nous allons faire prochainement. Et aussi, à la Saint-Barthélemy, le 24 août, il y a une célébration. Bon, nous sommes 80 adhérents, je vous l'ai déjà dit. Et nous avons beaucoup de donateurs du village et des touristes, hein, très généreux.
Et donc ces dons permettent d'acheter le matériel nécessaire pour faire les travaux ?
Continuer les travaux, oui, tout à fait, nous en avons besoin. Et nous avons une aide de la part de la mairie aussi, très importante. Il ne faut pas que je les oublie. Voilà, tout ça nous permet de continuer les travaux et il y a un bon élan de la part de tous les gens. C'est vrai que voilà, ça nous plaît beaucoup de restaurer cette petite chapelle, la faire revivre.
Alors, vous-même, Evelyne, vous êtes investie dans cette association ?
Oui, moi, ça fait 3 ans parce que j'étais à Lyon. Et puis, je suis revenue dans mes origines. Et quand j'étais petite, à 8-10 ans, j'allais dans cette petite chapelle. Et j'en ai entendu encore parler. Et je me suis inscrite et je suis dévouée.
Et dévouée, très investie, ouais.
Alors, on voit bien, à vous entendre, que ce souci du patrimoine et l'engagement de l'association suscitent du lien social derrière.
Ah oui, beaucoup d'intérêt et puis ça rassemble beaucoup de gens du village, justement, où tout le monde s'était un peu dispersé. Et le fait d'avoir monté cette association, on retrouve des gens, oui, voilà, c'est vrai.
Voilà. La chaleur humaine.
Alors pourquoi vous êtes présent aujourd'hui à cet événement Terre d'Espérance ? En quoi votre engagement est signe d'espérance ?
En fait, c'est pour présenter justement ce que nous faisons et que ça se répande un peu partout, justement. Merci.
Pour faire voir qu'il faut protéger le patrimoine, les églises, les lavoirs, des petites communes. C'est très important parce qu'autrement, tout... Voilà.
Faire comprendre aux habitants des petits villages qu'en fait c'est possible de se mobiliser pour le patrimoine.
C'est possible, mais avec la volonté et puis de le faire savoir. Je pense que les gens, ils attendent certaines fois un élan comme ça et de la part de la commune. Et voilà. Et nous sommes là pour faire revivre cette chapelle.
Alors Thierry Ségouffin, vous êtes producteur. Et vous venez aujourd'hui présenter à cet événement Terre d'Espérance la marque Blanc des Hautes-Pyrénées. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
La marque Blanc des Pyrénées, c'est avant tout du lait. Aujourd'hui, on commercialise une brique de lait sous forme UHT en demi-écrémé. Et bon, à l'origine de cette marque, c'est 17 éleveurs. De l'ensemble du département qui ont souhaité développer une brique de lait, non seulement pour avoir une meilleure rémunération du prix du lait, et également faire un produit local, équitable et tracé. Donc voilà, et depuis 2016, on réfléchit ensemble pour voir quel type de produit on peut commercialiser. Et en 2019, au 1er janvier 2019, on a commercialisé notre brico, qui est aujourd'hui l'unique produit sur le marché. Mais à partir de janvier 2022, on pense également mettre de la crème UHT dans les rayons de nos supermarchés et de nos magasins de producteurs.
Quel a été l'élément déclencheur? Pourquoi il vous a semblé nécessaire de lancer cette marque qui rassemble donc plusieurs producteurs des Hautes-Pyrénées?
Mais l'élément déclencheur au départ, c'est suite à la crise 2016, où on avait un prix du lait de l'ordre de 28 centimes, où nos industriels laitiers nous rémunéraient le lait à 28 centimes le litre, alors qu'on avait des coûts de production de 35, donc on n'arrivait plus à vivre de ça, et on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on fasse des circuits courts, vente directe et locale, puisque bon, il nous semblait que bon, ça permettait, avec une reconnaissance des consommateurs, on arriverait à mieux rémunérer notre lait. Et c'est chose qui est faite, parce que bon, avec un prix de lait qui reste raisonnable pour le consommateur, nous aujourd'hui, on achète le lait à 40 centimes au producteur. Donc c'est pas neutre. Bon, le seul bémol, c'est qu'aujourd'hui, ça représente que 25% de notre production. Le reste va toujours chez les industriels. Donc, qui ont augmenté un peu depuis la crise 2016, heureusement, parce qu'il n'y aurait plus de lait en France. Mais bon, il en manque encore, quoi. Il y a toujours 5 centimes d'écart.
Donc, en fait, pour résumer, le prix de vente du lait, non seulement n'était pas égal à ce que ça vous coûtait, et en plus, les industriels se faisaient dessus une marge qui, là, c'est plutôt un problème d'éthique, en fait.
Ah oui, tout à fait. Bon, d'ailleurs, nous, on a marqué sur la brique un lait équitable. Ouais. Un lait équitable, pourquoi? Parce que les producteurs étaient bien rémunérés sur cette partie du lait. Chose que nos industriels... C'est-à-dire que nos industriels, ils sont sur le marché mondial. C'est des gros groupes, des multinationales. Les Danone, Lactalis, tout ça, c'est pas des enfants de cœur non plus. Donc, ils nous appliquent le prix mondial. Mais le problème, c'est qu'en France et dans le sud-ouest ou dans le département, on a des coûts de production qui sont supérieurs. C'est valable pour les céréales et pour tout, et le lait notamment.
Est-ce que quand on est producteur, on peut se passer de cette vente aux industriels? Est-ce qu'on peut fonctionner qu'en circuit court, au cours, qu'en lien direct avec les consommateurs? Est-ce que c'est possible de vivre et de faire tourner son exploitation de cette manière-là?
C'est-à-dire que nous, c'est possible. Mais il faut pouvoir avoir le marché. Nous aussi, on aimerait vendre l'ensemble de notre production à Blandes des Hautes-Pyrénées. Mais bon, aujourd'hui, on a 3 ans d'existence. On a pris que 25% de notre production. Donc on est obligé de garder l'autre partie. Parce que bon, on a des investissements, on a des structures qui sont suffisamment grandes. Moi, je produis 700 000 litres de lait. Au Blanc des Pyrénées, j'en livre 150 000. Donc, la différence, il faut que je la vende à quelqu'un. Même si c'est pas un prix exorbitant, mais bon, je pourrais pas rembourser mes échéances, tout ça, avec 150 000 litres. Mais le but, c'est étant d'arriver au moins à 50%. Parce que pour faire ça, il a fallu demander l'accord aux industriels, quand même. Ça n'a pas été facile. Et aujourd'hui, il y a que Danone et Savencia qui ont répondu OK d'entrée. Les autres groupes, c'était niet.
Et pourquoi? Qu'est-ce qui bloque?
Et parce que bon, ils considèrent qu'on a un contrat avec eux, donc voilà, et c'est à eux qu'on doit leur fournir. Mais ils sont pas capables de nous rémunérer de façon satisfaisante, mais bon, ça n'empêche qu'ils voulaient nous obliger à les livrer. Et alors bon, comme on a une déprise laitière importante dans le sud-ouest et les Hautes-Pyrénées, en leur présentant, en leur disant, mais est-ce que vous voulez demain des producteurs qui vous donnent 50% du volume et qui traitent 50% en direct, ou plus de producteurs du tout? Et je pense que certaines laiteries l'ont compris à l'époque. Et là, aujourd'hui, ils sont tous partants, quoi. Donc, ils voient vraiment qu'il y a un problème. Eux, on leur dit, eux, ils peuvent pas nous rémunérer. Mais bon, si vous voulez appliquer le prix mondial, on en est conscient. Mais bon, ben, laissez-nous faire quelque chose pour pouvoir vivre. Sinon, il y aura plus de lait, quoi.
Donc, il y a quand même une, les mentalités changent, évoluent de ce point de vue-là. Parlons un petit peu du côté consommateur. Comment cette initiative a-t-elle été reçue en 3 ans? Si vous vendez 25% de votre production sous cette marque Blanc des Hautes-Pyrénées, c'est plutôt bon signe. C'est que ça répondait à un besoin, peut-être une attente?
Ah, tout à fait, oui. Mais le consommateur, et on le voit, et on a vu l'effet Covid. Nous, en 2020, mars-avril 2020, on a triplé nos ventes, quoi. Et on a pris de nouveaux magasins, et parce qu'il y avait pas d'autre lait en plus, il y avait des problèmes d'approvisionnement. Bon, le fait d'être local, c'était à côté, quoi. Notre lait, il fait 50 kilomètres de rayon, quoi, hein. Donc entre la transformation, la production et la consommation. Donc, mais il y a cet engouement quand même, circuit court, vente directe, équitable, et ça on s'en aperçoit parce que tous nos producteurs, ils sont obligés de faire des animations. Chose qu'ils étaient plus ou moins réticents au départ, parce qu'ils avaient peur, ils savaient pas comment les consommateurs allaient réagir. Et c'est que du positif, quoi. Ils reviennent de là enchantés.
Parce qu'il y a une satisfaction aussi personnelle.
Ah ben oui, de toute façon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une aventure humaine où on échange entre nous, où on se voyait souvent. Ça redonnait du baume au cœur, pas qu'au niveau financier, quoi. Je veux dire, même au niveau du moral et par rapport à l'agribashing, où on dit l'agriculture pollue, vie de prime, tout ça. Quand on s'adresse au consommateur et on échange avec lui, c'est tout autre. Et puis, ça permet de recadrer aussi, parce qu'il y a des consommateurs qui ont des infos, mais vraiment très mauvaise. Enfin, c'est les médias où ils les interprètent mal. Ça aussi, ça peut arriver. Mais en échangeant avec eux sur nos façons de produire, tout ça, on remet certaines choses à leur place, quoi.
Marie et Loïc, vous représentez aujourd'hui le MRJC. Alors sur ce thème Terre d'Espérance, on sait que vous êtes un peu des spécialistes, parce que vous, au MRJC, vous avez les mains dans le cambouis depuis longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Terre d'Espérance? Qu'est-ce que ça signifie, Loïc?
Pour nous, Terre d'Espérance, c'est avant tout une bonne occasion de rencontrer des acteurs locaux du département, des gens qui font vivre le rural, des gens qui portent des initiatives qui sont porteuses d'espérance, en fait. Et justement, c'est l'occasion de rencontrer toutes ces personnes, de se mettre à l'écoute, de vivre une journée au moins aujourd'hui avec elles, et de découvrir tout ce qu'elles font. Nous sommes aussi ancrés dans Terre d'Espérance via des actions que l'on réalise, et notamment notre festival que nous avions réalisé en 2019, le festival Oser le Rural.
En centre-ville de Tarbes, hein, sur la place de la mairie de Tarbes, on s'en souvient. Oui.
C'est ça, et l'objectif c'était, je rappelle, de promouvoir le rural, de promouvoir des initiatives rurales, en fait, exactement ce qui se passe pour Terre d'Espérance. Et j'en profite donc pour parler de notre projet cette année, pour le 7 mai 2022, où nous organisons une récidive, si j'ose dire, de ce festival. Sauf que la grande différence, ce sera que cette fois-ci, nous allierons avec d'autres associations, nous contacterons d'autres associations pour justement organiser ce festival ensemble et le construire ensemble.
Marie, je me tourne vers vous. Alors, au MRJC, alors vous me disiez avant de lancer cette interview, nous, on est les vieux du MRJC, mais enfin, vous êtes quand même jeunes. Vous êtes la jeunesse aussi de la Bigorre, et vous êtes aussi des consommateurs. Alors, cette journée Terre d'Espérance, on voit, hein, il y a des agriculteurs, il y a des producteurs locaux. C'est aussi une interpellation aux consommateurs que nous sommes tous. Qu'est-ce que vous, en tant que consommatrice, vous percevez alors de cette journée? Peut-être que vous pouvez nous dire quel est votre mode de consommation, quel est votre regard sur ça? Mais c'est vrai qu'avant d'entrer au MRJC, je ne me posais pas énormément de questions. Et ce mouvement m'a amené à plus me questionner sur mon mode de consommation, notamment aussi avec des copains qui sont agriculteurs et qui étaient au MRJC. Donc moi, mon mode de consommation, j'essaye au maximum d'acheter aux producteurs locaux et en direct. Donc par exemple avec Fabien Jeannoulou qui fait ses colis de brebis. D'agneau. Et après, sur des marchés locaux, voilà, il y a le marché itinérant des Baronnies qui est ici, où nous, on participe et on y va en tant que consommateur. Et moi, j'irai plus loin dans mon travail d'animatrice, de directrice d'accueil de loisirs. J'essaye toujours d'amener les jeunes à réfléchir à ça, à se dire, bon, ben, peut-être c'est plus cher, mais est-ce que c'est pas mieux de mettre plus d'argent dans l'alimentation? Et c'est un peu notre politique là où je travaille, et un peu moins dans la consommation d'activités. Et finalement, d'avoir des produits plus locaux et puis meilleurs aussi pour la santé et pour l'environnement aussi.
Donc, c'est-à-dire consommer bien, bon, et en même temps faire un geste, faire quelque chose de positif. Enfin, voilà, c'est aussi un encouragement aux producteurs quand on achète local.
Oui, c'est sûr. Ben, c'est, en fait, c'est s'intéresser aux gens qui vivent autour de nous et leur permettre de continuer à vivre sereinement et avec un revenu qui est le revenu qui leur est dû, parce qu'en fait, souvent, dans les grands commerces, c'est vraiment des revenus très minimes pour les agriculteurs, et je trouve important de pouvoir valoriser tout leur travail, qui est un travail énorme quand on a déjà fait des stages voilà, dans des fermes. Voilà. C'est important pour moi.
Alors, les plus jeunes générations que vous côtoyez au quotidien dans votre travail, vous les sentez réceptives à ces questions-là? Est-ce qu'elles comprennent, ou est-ce que c'est encore un enjeu de faire passer le message?
Alors, elles sont très réceptives, tout ce qui est plutôt recyclage. Après, consommation, c'est encore très... Bon, on va au supermarché, on ne regarde pas forcément l'étiquette du produit, on prend le moins cher. Mais parce que souvent, le porte-monnaie est très important, en fait. Donc, on ne réfléchit pas à ça. Mais ils s'habituent assez vite, je dirais. C'est vrai qu'ils se rendent compte, si on leur explique correctement et que ce n'est pas une obligation, on y va petit à petit. Voilà, on ne leur fait pas de suite manger des panais et des légumes un peu anciens. On y va petit à petit. Et ils s'en rendent compte. Ils se rendent compte que c'est valorisant. Il faut aussi le faire de façon éducative, à aller sur la ferme, à les rencontrer, les agriculteurs, et pour qu'ils se rendent compte de ce que c'est ce métier et de l'importance de soutenir.
Voilà. Donc il y a de l'espérance. On peut avoir de l'espérance.
Ah oui, 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 aujourd'hui, oui.
Oui, on a de l'espérance.
Merci, c'est le mot positif de la fin.